بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب صلاة المسافر وتشتمل على أولا قصر الصلاة الرباعية وفيه مسائل. Donc là on est dans le chapitre de la prière du voyageur. Premièrement, il parle du fait de réduire les prières qui sont de 4 rak'a. المسألة الأولى في حكم القصر. Donc quel est le statut religieux de cet acte? لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر. Donc il n'y a pas de divergence entre les gens de science sur le fait qu'il est légiféré de réduire la prière de, qui est à la base de 4 rak'a à 2 rak'a pour le voyageur. ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. Et les preuves elles sont dans le livre, la sunna et le consensus. أما القرآن فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. La preuve dans le Coran, c'est dans Surat An-Nisa, le verset qui dit « Lorsque vous voyagez sur la terre, il n'y a pas de mal pour vous à ce que vous réduisiez la prière si vous craignez que ceux qui ont mécru vous atteignent. » Mais le fait de réduire la prière, c'est légiféré et c'est permis quand on est en voyage, que ce soit en situation de peur ou pas. C'est-à-dire parce que le verset pourrait laisser se entendre que c'est que quand on a peur, parce qu'il dit si vous craignez que ceux qui ont mécru vous yaftinakum, c'est-à-dire ils vous causent un méfait. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم, ça c'est le hadith de Omar que vous connaissez, quand quelqu'un il a demandé à Omar pourquoi, c'est-à-dire on peut refaire la prière en 2 rak'a alors que les gens ils ont, ça y est, on a la sécurité. Et il a dit, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet et il m'a répondu. Donc là il cite le hadith qui dit, c'est une aumône qu'Allah vous a fait, alors acceptez son aumône. Ça c'est dans Sahih Muslim. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله رواه مسلم. Il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses successeurs ils ont pratiqué constamment cet acte. Donc Ibn Omar radiallahu anhuma il disait, j'ai accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage et il ne faisait pas plus de 2 rak'ah jusqu'à ce qu'Allah qabidahullah, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il meure. Et j'ai accompagné Abu Bakr et il ne faisait pas plus de 2 rak'a, c'est-à-dire en voyage jusqu'à ce qu'il meure. Ça c'est dans Sahih Muslim. Thumma dhakara Umar wa Uthman radiyallahu anhum. Et après il a dit la même chose à propos de Umar et de Uthman. Wa rawa Ahmad an ibn Umar marfu'an inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Et le hadith aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed selon Ibn Omar qui dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah aime qu'on pratique ses ar-rukhas, c'est-à-dire ses permissions, comme il déteste qu'on pratique sa désobéissance. Ça c'est dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ils disent dans la marge, c'est authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Wa amma al-ijma' fal-qasr min al-umur al-ma'lumah min ad-din bid-darura. Il dit quant au consensus, eh bien le fait de rétrécir les prières pendant le voyage, c'est quelque chose de connu. Ça veut dire, quand vous lisez cette expression, c'est les choses qui sont évidentes dans l'islam, comme l'obligation de la prière, ou le fait que le riba ou la fornication se soit interdit. Ça, c'est les choses, on appelle ça al-ma'loum min ad-din bid-darura. Ça veut dire, c'est quelque chose que forcément tout le monde le sait. En tout cas, dans les pays où il y a des gens de science. وقد أجمعت عليه الأمة إلى الأمة donc la communauté de l'islam est d'accord sur ce sujet. وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها. Il dit, et donc selon ce que vient d'expliquer, le fait d'être assidu à cette sunna et de prendre cette permission d'Allah, c'est mieux que de la délaisser. بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر. Jusqu'à ce que certains des gens de science ont détesté le fait de faire 4 rak'a dans le voyage. وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة وأن ذلك كان هدي المستمر الدائم. Et il dit parce que le prophète صلى الله عليه وسلم continuellement il pratiquait ça ainsi que ses compagnons et c'était ce qu'il faisait el mustamir, c'est-à-dire c'est ce qu'il faisait perpétuellement. Il n'avait pas été rapporté qu'il a fait le contraire de ça. المسألة الثانية, la deuxième question, في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. Donc il dit la prière qu'on a le droit de rétrécir. Quelle est-elle? C'est la prière de 4 raka'a. Donc الظهر, العصر et العشاء. ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا. Et par consensus des savants, donc la prière du subh et du maghrib, elle ne, on les rétrécit pas. لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فدل على أن الرباعية هي المقصودة. Il dit, et aussi parce que c'est ce qui est retiré des actes du prophète صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons, et le hadith, la parole d'Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما. Donc là c'est un athar qui dit, c'est Abdullah ibn Abbas lui-même qui dit ça, Allah a obligé, c'est-à-dire farada, il a imposé ou il a obligé la prière sur la langue de son prophète, c'est-à-dire par la bouche de son prophète, de 4 raka'a fil hadar, c'est-à-dire quand on est chez soi, et de 2 raka'a en voyage. Ce qui prouve que ce qui est voulu par là, c'est celle qui est de 4 raka'a, c'est-à-dire qu'on va rétrécir à 2 raka'a en voyage. Cette parole, elle est dans Sahih Muslim. Al-mas'alatu thalitha. في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. Ici on peut mentionner juste une petite faïda, inshallah, par rapport à la parole d'Ibn Abbas. Quand est-ce que, dans une parole d'un compagnon, c'est-à-dire il ne dit pas le prophète a dit, quand, des fois ça a le jugement de mawquf. Mawquf ça veut dire c'est un acte d'un compagnon, une parole d'un compagnon, c'est l'opinion d'un compagnon. Et quand est-ce que ça a le jugement du marfou'? Marfou' ça veut dire ce qui est rattaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, notamment quand il parle des choses que, c'est-à-dire il n'y a pas d'ijtihad dedans. En fait, c'est tout ce qu'il donne sur l'aqidah notamment. Si c'est une sifa par exemple. Par exemple, quand Abdullah ibn Abbas il a dit Al-Kursiyu Mawdi'ul Qadamein, c'est-à-dire Al-Kursi, c'est l'endroit où Allah met ses deux pieds. Ibn Abbas il ne peut pas avoir la révélation pour dire ça. Donc on sait qu'il le tient forcément du prophète. C'est-à-dire sa parole, on peut la mettre dans les hadiths marfoua, c'est-à-dire les hadiths rattachés au prophète. Ou alors si un compagnon il dit, ça je vais pas tout vous dire, je retiens pas tout, mais je vous dis inchallah des exemples, ça peut servir quand vous lisez. Si par exemple un compagnon il dit nous faisions telle et telle chose, ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'il mentionne pas que le prophète l'a interdit, ça veut dire qu'il le faisait et que c'était permis et que le prophète l'a pas interdit. Donc là aussi ça a le jugement du marfou'. Pourquoi? Parce que le prophète était présent, il a eu connaissance de ça. Même s'il n'a pas eu connaissance de ça, Allah en a eu connaissance. Et le prophète est vivant et il n'y a pas de révélation qui est descendue pour. Donc on peut le mettre dans le qisme de Al-Marfoua. Donc notamment, comme a dit le frère, c'est que c'est dans les choses où il n'y a pas d'ijtihad. C'est-à-dire les choses qu'on ne peut pas savoir par la raison. Ou alors on ne peut pas faire un effort pour le savoir. Ou alors c'est comme les choses qui touchent à l'akhira, l'adhab al-qabr. Ou alors ce qui va se passer après le jour du jugement. Si un compagnon il dit il va se passer telle ou telle chose, c'est comme s'il disait le prophète a dit, c'est la même chose. Parce que forcément il ne peut pas le savoir de lui-même. Donc là par exemple c'est une parole d'Ibn Abbas. Mais regardez l'indice dans cette parole, c'est quand il a dit Allah a imposé la salat par la bouche du prophète. Yani ala lisani nabiyikum. Si on traduit littéralement, ça veut dire sur la langue du prophète. Donc là ça a quel jugement? Est-ce que c'est une parole d'Ibn Abbas? Non. Ça devient. C'est une parole d'Ibn Abbas, mais ça a le jugement d'une parole du prophète. Parce qu'il dit que ça vient de la bouche du prophète. Al-mas'al al-thalitha fi haddi safar alladhi tuqsaru fihi salatu wa naw'uhu. Après, troisièmement, il dit quelle est la limite du voyage dans laquelle on rétrécit la prière. Bon, vous savez, avant qu'on lise dedans, qu'il y a beaucoup d'opinions entre les savants. Et ce livre, il s'attache qu'à une seule opinion. Donc le but là, c'est pas aujourd'hui de voir toutes les opinions avec leurs preuves. C'est simplement de citer l'opinion qu'ils ont choisie ici. Donc il dit « حَدُّ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ سِتَّةَ عَشَرَةَ فَرْسَخًا تَقْرِيبًا وَهِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدْ وَبِالْأَمْيَالِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَهُوَ مَا يُقَارِبُ ثَمَانِينَ كِلُومِتْرًا. Donc il dit, là il cite différentes distances, des unités de distance qu'on ne connaît pas ici en Occident, il dit ce qui veut dire 80 km à peu près. وَهِيَ يَوْمَيْنِ قَاسِدَانِ فِي زَمَنٍ مُعْتَدِلٍ بِيَسِيرِ الْأَثْقَالِ وَدَبِيبِ الْأَقْدَامِ. Il dit ce qui équivaut à deux jours de jours fi zamanin mu'tadil, yassir athqal, c'est-à-dire avec des bagages modérés, c'est-à-dire quelque chose de léger, pas des bagages trop lourds. C'est l'équivalent d'une durée d'un voyage qu'on ferait en deux jours quand on est à pied. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. Et le prophète il a nommé un jour et une nuit, il a appelé ça safar, il a appelé ça voyage. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا. Et Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, ils faisaient c'est-à-dire ils rétrécissaient les prières en deux rak'a quand ils voyageaient à une distance de 4 burud, ce qui équivaut à 16 farsakh, ce qui équivaut à peu près à 80 km. وَأَمَّا نَوْعُهُ فَهُوَ السَّفَرُ الْمُبَاحُ. Quant à la sorte de voyage dans laquelle c'est légiféré, c'est le voyage qui est licite. كَالسَّفَرِ لِلْتِجَارَةِ وَالنُّزْهَا. Comme le fait de voyager pour le commerce ou pour se balader. وَالسَّفَرِ الْوَاجِبُ كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ وَالْجِهَادِ. Ou alors le voyage qui est pas seulement licite mais qui est obligatoire, comme le voyage qui est pour le pèlerinage ou pour le djihad. وَالسَّفَرِ الْمَسْنُونِ الْمُسْتَحَبْ كَالسَّفَرِ لِلْزِيَارَةِ وَالسَّفَرِ لِلْمَرْأَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْحَجِّ. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء. Et aussi le safar qui est recommandé, comme le voyage qui serait fait pour visiter quelqu'un. Et il dit donc que le voyage qui est interdit, on n'a pas le droit de rétrécir les prières dedans, selon l'opinion de beaucoup de ulama. Donc ils disent, puisque comme c'est un voyage qui est à la base interdit, on ne peut pas y appliquer les jugements de la prière, le jugement d'un voyage qui est légiféré. Et le reste des ulama, donc ils n'ont pas cité ici, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ce qui est voulu c'est le voyage, sans regarder est-ce que le voyage il est licite ou pas. Ça rappelle une question qu'on avait déjà vue, c'est quand ils disaient le khouf, le fait que tu mettes une chaussette que tu as volée, par exemple qui est illicite, ben tu peux pas essuyer dessus. Ça c'est un avis. Ils disent parce qu'à la base, elle ne devrait pas être sur ton pied. Donc si elle ne devrait pas être sur ton pied, ben comment tu peux essuyer dessus? Et d'autres ils disent quoi? Ils disent ben non, ce qui est demandé c'est d'essuyer sur le khouf. T'as un khouf, t'essuies dessus. Après qu'il soit volé ou pas, ça c'est une autre question. C'est-à-dire ça c'est des divergences à propos de... c'est-à-dire chez l'ulama, qui ne concerne pas l'adoration en elle-même, mais un détail de l'adoration. المسألة الرابعة هل يقصر من نوى الإقامة. La quatrième question c'est, est-ce qu'il rétrécit les prières celui qui a mis l'intention de rester là où il est, l'Iqama. Donc l'Iqama c'est le contraire de safar. من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه. Donc ils disent, il y a un tafsil, c'est-à-dire il faut expliquer la chose. Il n'y a pas un seul cas, il y a plusieurs cas. Ils disent, celui qui a eu l'intention de rester de façon mutlaqa, c'est-à-dire absolue, il dit je vais rester, celui-là il ne peut pas rétrécir ses prières, puisque la cause qui permet de rétrécir les prières, qui est le voyage, elle n'est pas là. كذلك إن الإقامة أكثر من أربعة أيام. Ou alors celui qui décide de rester plus de 4 jours. أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة. Ou alors il est là pour un besoin et il pense fortement que ça va pas se finir avant 4 jours. C'est-à-dire il est pas sûr, mais il sait que ça va, normalement ça va durer plus de 4 jours. Donc par lui il rétrécit pas ses prières. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها وذلك أنه أنه قدم الصبح الرابعة عليكم السلام فقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. Donc ils disent ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Mecca, il a prié 21 prières qu'il a rétréci. Et en fait, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il n'est jamais resté plus de 3 jours dans un même endroit. Donc il faisait le qasr, mais jamais il reste plus de 3 jours. Donc c'est pour ça qu'il dit, si tu restes plus de 4 jours dans un endroit, 4 jours pardon, si tu restes plus de 4 jours dans un endroit, eh ben tu dois reprendre la prière normale. فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر ومن زاد أتم. Donc celui qui va rester 4 jours ou moins, c'est-à-dire 4 jours complets ou moins de 4 jours, lui il rétrécit ses prières. Et celui qui pense faire plus ou qui va faire plus, celui-là il peut pas, il fait ses prières complètes. Dhakarahu l'imam Ahmed. C'est ce qu'a mentionné l'imam Ahmed, rahimahullah. Ici, ils disent dans la page, si quelqu'un veut regarder, ils disent, on peut voir ça dans Al-Mourni d'Ibn Qudama et dans les fatawas de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. قال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا أنس disait nous sommes restés 10 jours à Mecca à la Mecque et nous rétrécissons la prière, mais ils disent c'est dans le sens où on l'a expliqué, c'est-à-dire à chaque fois il bouge d'un endroit à un autre, donc il est toujours considéré en voyage. لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. Donc ici ils disent par contre, faut que je relise, ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة. Il dit si il reste dans un endroit, mais sans avoir l'intention de rester plus de 4 jours, et pour un besoin, là il fait, donc là c'est conforme à ce qu'on a lu jusque maintenant, mais il ne sait pas quand est-ce que son besoin il va se finir. Donc la différence avec le premier cas, c'est quoi? C'est que dans le premier cas, il pense, c'est-à-dire c'est un dhan rajih, c'est-à-dire il pense fortement, il n'est pas sûr à 100%, mais que son besoin il va prendre plus de 4 jours. Celui-là, il vient, il a un besoin déterminé, il ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Celui-là, il peut faire le qasr. Ou alors, quelqu'un qui a été retenu par injustice ou à cause de la pluie. Ces trois-là, ils restent, même si c'est des années, tant qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils ont à faire, ou alors qu'ils n'ont pas été libérés, ou alors que la pluie ou le temps qui les retient dans l'endroit, il ne s'est pas fini, ils restent à faire leur deux raka'a au lieu de quatre, même pendant des années. المسألة الخامسة الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. Cinquièmement, donc les situations dans lesquelles il est obligatoire au voyageur de compléter les prières en quatre raka'at. هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر. منها أولا إذا تأمل المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم تلك سنة أبي القاسم. Première chose, ici c'est quand est-ce que le voyageur, c'est-à-dire à des exceptions où il doit prier 4 raka'a alors qu'à la base il peut en faire que 2. Les différentes situations, premièrement c'est si il prie derrière un imam qui est chez lui et qui donc fait 4 raka'a, alors lui aussi il doit compléter en 4, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'imam n'a été mis à sa place que pour être suivi. Ça c'est dans ils disent sabaqa takhrijuhu, si je ne me trompe pas, ça c'est dans les deux sahih. Et la parole d'Abdullah ibn Abbas qui a dit, quand on lui a demandé, c'est-à-dire le fait que celui qui voyage, il complète en 4 raka'a derrière celui qui est chez lui. Il a dit c'est la sunna de Abu al-Qasim, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole elle est dans le musnad de l'imam Ahmed et Cheikh al-Albani dans l'Irwa. Il dit que c'est authentique, sahih. Donc là, c'est à quel jugement aussi la parole de Abdullah ibn Abbas par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand il dit c'est la sunna d'Abu al-Qasim, c'est marfoua, parce qu'il le rattache directement à la sunna. Thaniyan, إذا تأمى بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أو مقيم كان يكون في المطار ونحوه فإنه يلزمه الإتمام لأن القصر لا بد له من نية جازمة. S'il rentre dans la prière derrière un imam dont il ne sait pas s'il est voyageur ou s'il est chez lui, comme ils disent par exemple ça peut arriver dans un aéroport, parce que tu as des gens qui sont là, ils travaillent, et d'autres ils sont en voyage. Il dit alors il fait 4 raka'a, parce que le fait de rétrécir la prière en deux, elle a besoin d'une certitude et d'une attention claire et déterminée. Si tu ne peux pas avoir cette certitude, alors tu dois rester sur 4 raka'a. ثالثا إذا ذكر صلاة حضر في السفر. Troisième cause, c'est quand il se rappelle d'une prière qu'il aurait dû faire chez lui alors qu'il est en voyage. كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء أو تذكر صلاة فائتة في الحضر. Comme par exemple un homme qui sera en voyage et il se rappelle que la prière du dhuhr quand il était chez lui, avant de voyager, il l'a fait sans ablution. Ou alors il a une prière, il a manqué une prière. Par exemple, il avait dormi et après il a oublié de la faire. هنا يلزمه أن يصليها تامة. Donc là, il doit la faire complète. Pourtant, il est en voyage parce que c'est une prière qu'il aurait dû faire chez lui. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. Dans le hadith, il est dit, celui qui dort et qui rate une prière ou qui oublie une prière, qu'il la fasse quand il s'en rappelle. Ça, c'est dans les deux sahihs. Ce hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, on en profite pas seulement dans ce chapitre. C'est que le temps de la prière, pour quelqu'un de normal, c'est les temps qui sont déterminés dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As. C'est-à-dire le temps du Fajr, le temps du Dhuhr, etc. Mais celui qui oublie une prière, ou alors qui dort et le sommeil il le vint et il perd connaissance dans son sommeil, à tel point qu'il ne se réveille pas pour la prière, c'est-à-dire, lui il n'avait pas l'intention, c'est de ça qu'on parle, il n'avait pas l'intention de dormir et de dépasser le temps de la prière. Un exemple, on peut donner, il met le réveil et il y a une panne de courant, le réveil il s'éteint. Donc là, il va dormir et il va rater. Il va se réveiller à 10h, il a raté le sobh par exemple. C'est sorti de son heure. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire quelqu'un qui a dormi, mais involontairement, il est sorti de l'heure de la prière. Comme c'est arrivé d'ailleurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Alors ces deux-là, dans leur cas eux et leur situation, en ce qui les concerne, l'heure de la prière, c'est quand ils se réveillent. Et pour celui qui a oublié, c'est quand il se rappelle. Là, il doit prier. Après, est-ce qu'il doit prier tout de suite ou est-ce qu'il a le temps? Si on revient au hadith du sujet, donc le hadith d'Abu Qatada quand il raconte, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils étaient en voyage, et Abu Huraira aussi il a raconté ce hadith, comme quoi ils étaient en voyage, et ils se sont endormis, et ils se sont réveillés qu'une fois que le soleil il était levé. Et la première personne à s'être réveillée c'était Abu Bakr, ensuite Omar. Et eux, ils n'osaient pas réveiller le prophète. Jusqu'à ce que Omar, lui, il ose et il fasse la veine à côté du prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ça, il a dit « Irtahilou », c'est-à-dire, entre guillemets, « bougez, prenez vos bagages et on se déplace d'ici, de cet endroit ». Et seulement après avoir bien avancé avec les chameaux, ils se sont posés, ils ont fait les l'iqama, ils ont fait les deux rak'a du fajr, ils ont fait l'aven, les deux rak'a de la sunna, l'iqama et la prière obligatoire. Comme il faisait tous les jours. Donc des ulama ils disent vis-à-vis du fait qu'il a avancé, il n'a pas prié tout de suite. Ça veut dire que si par exemple toi tu te réveilles après l'asr, tu as raté le dhuhr, tu n'es pas obligé de prier tout de suite, tu as jusque, c'est-à-dire tu as le temps pour prier, tu peux prier maintenant comme dans une demi-heure. D'autres ils disent non, il prie tout de suite parce que si le prophète a bougé, c'est pour une raison qu'il a montré dans le hadith, c'est parce qu'il a dit hadha wadin hadarahu shaytan. Il a dit cette vallée et comment dire hadarahu, c'est-à-dire il y a un shaitan qui est dans cette vallée, c'est-à-dire c'est lui qui a été la cause de votre sommeil et de vous avoir fait rater la prière. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu prier dans cet endroit, comme par exemple notamment pour comprendre, il interdisait de prier dans les endroits où il reste les enclos des chameaux, et il a dit parce que c'est un endroit où il y a les shayatin. Donc comme aussi cet endroit il y avait le shaitan, comme il a dit, qui est présent, il a voulu bouger. C'est pour ça qu'il n'a pas prié tout de suite. Donc, à kulli hal, voilà ce qu'il dit sur ce sujet. Rabi'an, idha ahram al-musafiru bi salatin yalzamuhu itmamuha fa fasudatu a'adaha kan yusalli al-musafiru khalfa muqimin fa yalzamuhu fi hadhi al-halati al-itmam fa idha fasudat alayhi hadhi al-salah ثم أعادها لزمه إعادتها تامة لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام. Il dit si il est rentré dans la prière derrière, c'est-à-dire dans une prière qu'il aurait dû faire en quatre, et après cette prière elle est invalide, comme par exemple il perd ses ablutions dedans, et il ressort et il doit la rattraper, il la refait en quatre. Ils disent l'exemple, il rentre en prière derrière un imam qui est de la ville, donc on dit muqim. C'est-à-dire il est d'ici, lui, il n'est pas en voyage. Donc normalement, combien il doit faire 4. Mais admettons, il fait quelque chose qui lui fait perdre ses ablutions. Donc il sort, il refait ses ablutions, et quand il revient pour la faire, là, il fait 4 raka'a. Parce qu'à la base, il a fait l'ihram, takbiratul ihram dans cette prière, donc c'est cette prière qu'il doit rattraper. Il doit la compléter. خامسا إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة. Le cinquième et dernier cas, c'est que si il a l'intention de rester, al-iqama, ou alors de devenir al-istitan, c'est-à-dire de devenir quelqu'un du pays. Donc ils disent, quand celui qui voyage a l'intention de rester, mais c'est une intention, entre guillemets, absolue, non conditionnée, il dit, ça y est, je reste là. Dans le pays dans lequel il vient de voyager, sans qu'il le conditionne par un temps précis ni par une action précise. Ou alors, il a l'intention de devenir un citoyen de ce pays, alors il doit accomplir ses prières en 4 raka'a, puisque le jugement du voyageur, ça s'est annulé en ce qui le concerne. Mais s'il conditionne son voyage par un temps précis, ou alors par une action, c'est-à-dire il doit faire telle chose et après il revient, alors là, c'est un voyageur qui fait sa prière en 2 raka'a. ثانيا الجمع بين الصلاتين وفيه مسائل المسألة الأولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك La deuxième question c'est le fait de regrouper deux prières Donc la première question c'est le fait qu'il est légiféré de regrouper deux prières et pour qui c'est licite
يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء
Il dit donc qu'il est légiféré dans un voyage dans lequel on peut rétrécir ses prières de regrouper le dhuhr avec le asr ou alors le maghrib avec l'aïcha dans le temps d'une des deux prières. C'est-à-dire si on veut faire dhuhr et l'asr ensemble, on a du dhuhr jusque maghrib. Et si on fait le maghrib avec l'aïcha, on a du maghrib jusqu'à la fin du temps de l'aïcha.
Les hadiths mu'adh anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana fi ghazwati tabuk إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء
Donc il dit ici le hadith de Mu'adh radiallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans la bataille de Tabouk, s'il partait avant que le soleil penche, C'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire le soleil penche C'est l'heure de quoi C'est l'heure du dhuhr. On avait expliqué le zénith, quand le soleil est au zénith, là c'est une heure d'interdiction, on n'a pas le droit de prier. Et quand le soleil commence à pencher, on appelle ça zawal, là c'est l'heure du dhuhr. Et entre les deux, il y a à peu près un quart d'heure. Donc ici, il partait avant que le soleil ne penche, c'est-à-dire avant l'heure du dhuhr, il retardait le dhuhr et il l'a regroupé avec l'asr. Et ils les priaient ensemble. Et s'ils partaient après que le soleil soit penché, c'est-à-dire après l'heure du dhuhr, ils priaient d'abord le dhuhr et l'asr ensemble, et ensuite seulement ils partaient. Et ils faisaient la même chose pour ce qui concerne al-maghrib et l'aïcha. Ça c'est dans les sunan, notamment Abu Daoud et Tirmidhi, et authentifié par Cheikh al-Albani.
وَسَوَاءٌ أَكَانَ سَائِرًا أَمْ نَازِلًا لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهَا وُجُودُ السَّيْرِ كَسَائِرِ رُخَصِهِ
Il dit, et ça, on ne regarde pas si la personne, elle est descendue. C'est-à-dire si, par exemple, elle est descendue sur une aire de repos et elle se repose un peu, ou si elle est en voyage. C'est-à-dire, elle est encore sur la route. Ou si elle est descendue pour, par exemple, dormir ou se reposer. Dans les deux cas, elle peut regrouper. En fait, il dit ça, il souligne ça, c'est parce que certains ulama, il dit ça, c'est que si il est sur la route et il s'arrête pour prier. Mais les hadiths, ils sont généraux.
إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا.
Il dit mais le mieux pour celui qui est nazil, c'est-à-dire il est stoppé dans son voyage. Donc par exemple, tu dois aller à telle ville où tu vas voyager. Et tu vas voyager donc moins de 4 jours. Sur la route, tu es sa'ir. Donc là, tu fais le jam comme tu veux sans problème. Quand tu es arrivé à cette ville, tu es nazil. C'est-à-dire, ça y est, tu es arrivé. Mais tu es moussafir encore. Tu fais le qasr parce que tu restes moins de 4 jours, conformément à ce qu'on a lu dans le livre. Donc là, tu es nazil. Donc, est-ce que le nazil, donc
différent du sa'ir qui est sur la route, le nazir, celui qui est arrivé mais qui est quand même voyageur, est-ce qu'il peut regrouper? Là il y a une divergence, mais ils disent il peut regrouper parce que les hadiths ils n'ont pas fait de différence, même si le mieux pour le nazil, c'est-à-dire celui qui est là, qui est arrivé, c'est de faire les prières à l'heure, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mina, donc c'était un voyage, il faisait ses prières à l'heure, il les faisait en deux mais il les faisait à l'heure, c'est-à-dire ils disent c'est le mieux, hein. c'est pas interdit de les regrouper.
ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة.
Et aussi il est légiféré et il décide de regrouper pour quelqu'un qui n'est pas en voyage mais qui est malade et qui aurait du mal donc à faire ses prières à l'heure.
لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر فلم يبق إلا عذر المرض ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين والاستحاضة نوع من المرض وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع مريضا كان أو معذورا بغير المرض مقيما كان أو مسافرا فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض أولا.
Donc je vais d'abord traduire jusqu'ici. Ils disent donc c'est légiféré pour le malade. Et il dit selon la parole d'Ibn Abbas qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé entre le dhuhr et l'asr et entre le maghrib et l'aïcha à Médine sans khawf, c'est-à-dire sans peur, et sans pluie. Et dans une autre version il a dit et sans voyage. Donc c'est-à-dire il n'a pas fait ça ni pour le voyage, parce que le voyage on peut regrouper, ni pour la pluie qui permet aussi de regrouper, ni pour la peur qui permet aussi de regrouper. Donc ils disent ici la seule excuse qui reste c'est la maladie. Ce hadith il est dans Sahih Muslim. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné à Al-Mustahada, la femme qui a du sang en dehors de ses règles, de regrouper la prière. C'est-à-dire ça c'est dans le hadith, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de Al-Mustahada, notamment dans le hadith de Hamna bin Jahsh, quand il lui a dit, en fait il lui a orienté à deux choses, soit de faire ses prières à l'heure et elle fait les ablutions à chaque prière, soit de regrouper les prières et de faire le roussel à chaque fois. C'est-à-dire ça lui fait trois roussels dans la journée. Donc c'est pas un roussel obligatoire puisqu'il ne lui a pas obligé. Si elle veut, elle sans roussel, elle fait ses prières, mais elle les fait à l'heure. Si elle fait le roussel, elle regroupe ses prières. Et ils disent l'istihada, le sang qui sort en dehors du temps des règles, c'est une sorte de maladie. Donc ce qui prouve que la maladie, elle permet de regrouper. Et toujours dans le hadith d'Ibn Abbas, les gens ils ont dit à Ibn Abbas pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a regroupé ses prières. C'est-à-dire dans ce jour-là. C'est-à-dire qu'il raconte qu'Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans cause, il a regroupé les prières. Ils lui ont dit alors pourquoi il a fait ça. Il a dit afin de ne pas gêner sa communauté. Yuhrij, c'est-à-dire leur mettre quelque chose de lourd et une gêne. Donc ils disent ici, donc quand l'être humain il est touché par une difficulté, s'il ne regroupe pas ses prières, alors il lui est légiféré et permis de regrouper. Qu'il soit malade ou excusé sans être malade, qu'il soit en voyage ou pas. Et ils disent ici, maintenant, ils vont citer trois sortes d'excuses. Ils disent, awalan, al-matar al-kathir, al-ghazir, al-ladhi yabillu thiyab, wa yalhaqu al-mukallaf bisababihi mashaqqa. Ils disent la pluie abondante qui mouille les vêtements et qui cause un mal à la personne. Al-wahlu wa-t-tin, wa dhalika idha kana yashuqu ala an-nasi bisababihi al-mashi. Al-Wahl, je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un sait, parce que je n'ai pas lu le cours avant de venir cette fois. Wahl, non. At-tin, c'est le. Enfin, en fait, ce que je comprends ici, c'est la boue, en fait. C'est-à-dire, après la pluie, la boue, ils disent ici, parce que At-tin, c'est le. Comment ça s'appelle? C'est l'eau qui est mélangée à la terre, c'est-à-dire l'argile, comme il a dit le frère. Ils disent qui empêche les personnes de marcher. Enfin, ce n'est pas qui empêche, mais ça fait une difficulté aux personnes de marcher à cause de cette boue.
ثالثا الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها.
Et la troisième question c'est un vent violent et froid qui est hors de l'ordinaire. يخرج عن العادة. Il dit encore d'autres excuses, c'est-à-dire c'est pas des excuses mahsoura, c'est-à-dire c'est pas seulement ces excuses-là. Ils disent mais toutes sortes d'excuses qui peuvent causer un malheur à la personne s'il ne regroupe pas ses prières. Notamment, donc, comme l'été va arriver, c'est sur ça qu'ils se basent les ulama qui disent qu'on a le droit de regrouper les prières l'été, même tous les jours. C'est-à-dire entre le Maghreb et l'Aïcha. C'est-à-dire que les mosquées qui font ça, en fait, ils ne font pas une faute. Et c'est un ijtihad qui existe chez des ulama d'Ahl-Sunnah wa Jama'a, notamment chez Cheikh Al-Uthaymeen. Et l'autre fois, le frère, quand j'en avais parlé, il m'a rappelé que ça s'est présent même dans les fatawas, celui qui l'a chez lui, les fatawas écrites de Cheikh Al-Uthaymeen, ça doit être dans le Awqat, c'est ça, c'est dans les chapitres des heures des prières, il mentionne ça. Il mentionne que, donc, dans les pays où les nuits elles sont trop courtes, ils peuvent regrouper la prière, le Maghreb et l'Aïcha. Et moi, comme je vous avais dit, c'est un shir de Médine qui nous l'avait dit, de Cheikh Al-Uthaymeen, qu'il avait fait cette fatwa pour les gens de la Hollande. Et la Hollande et le nord de la France, c'est la même chose. C'est-à-dire la nuit, elle est courte. Et c'est celui qui ferait le Aïcha à l'heure et le Fajr à l'heure, le lendemain, sa journée sera trop... C'est-à-dire que c'est pas supportable. المسألة الثانية في حد الجمع المشروع. وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه. وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه. فيجوز بين العشاءين والظهرين. والظهرين. يديز la limite donc de al-jam' qui est légiféré. C'est-à-dire comment on regroupe les prières. C'est le dhuhr avec le asr et le maghrib avec l'aïcha. Donc en ce qui concerne le voyageur ou celui qui a le même jugement que le voyageur. Et pareil pour celui qui regroupe sans être voyageur, comme à cause de la pluie, ou de ce qui a le même jugement que la pluie. Donc c'est entre les deux l'Aïcha et les deux dhuhr, c'est-à-dire, parce que les deux Aïcha, c'est-à-dire le Maghreb et l'Aïcha. Les hadith ibn Abbas al-Mahdi, qabla qalid, conformément au hadith ibn Abbas qu'on vient de citer, وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود مشقة وهي في الظهرين أيضا. Il dit c'est ce qu'ont fait Abu Bakr, Omar et Uthman. Quand ils ont regroupé de cette façon-là. Et parce que la cause qui est dans le fait de regrouper ces prières, c'est la difficulté. Et ça se fait en regroupant le Maghreb pour éviter la difficulté. C'est de cette façon qu'on l'évite, en mettant Dhuhr avec l'Asr et le Maghrib avec l'Aïcha. Donc ce qu'on en retire, c'est notamment que le Subh, il se regroupe pas avec une autre prière. On va s'arrêter là, Inch'Allah. La prochaine fois, c'est sur la prière du Jumu'ah. Et après, je pense que ça sera sur l'Istisqa, dans la prière de la peur. En tout cas, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.